Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Réflexion sur la photographie, car moi aussi, je suis allé à Paris Photo, admirer ces très très beaux clichés, faire un shopping virtuel, parce que quand on regarde les prix, malheureusement, ça n'est pas pour ma petite poche, mais voilà, on a voulu faire une petite digression sur la photographie, puisque la photographie, eh bien, on s'en sert un peu tous les jours. Celui qui, de nos jours, ne fait pas de photos, qui lève le doigt. Moi qui suis un enfant de 1974, je peux témoigner de mon temps, ce sont les adultes qui prenaient les photos. Et surtout, on ne gâchait pas la pellicule pour faire des clichés de tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, la photo sert de bloc-notes, un produit en vue et hop, un code-barre, pareil, une référence, pareil, en voyage. On revient avec 1000 photos qu'on ne regarde jamais après. Mais Dieu sait qu'on panique quand le cloud ne nous les garde pas, ces 1000 photos qu'on ne regardera jamais. La photo XXS, celle de tous les jours qu'on poste sur les réseaux sociaux, très différente de la photo XXL, la photo d'art qui existe encore et qui n'est pas faite par votre smartphone, mais par de beaux appareils argentiques, du professionnel Nikon à l'emblématique Leica, du compact Relay à l'instantané Polaroid. D'ailleurs, Capucine Patouillet, qu'est-ce que c'est que l'argentique ?
Eh bien, à l'origine, le terme argentique désignait le procédé chimique qui permettait de fixer l'image, du moins son négatif, sur pellicule. On utilisait pour cela une couche de gélatine avec des cristaux d'halogénure d'argent, puis de bromure d'argent dans un second temps, sur lesquels venait se fixer la lumière au déclenchement de l'obturateur. Mais aujourd'hui, on désigne surtout par là les appareils et les clichés qui sont réalisés sans technologie numérique, justement. Et il y en avait pour tous les budgets, jetables, compacts, réflexes ou encore objectifs télémétriques. Mais à partir de 2006, les grands fabricants d'appareils comme Nikon, Konica Minolta, Olympus ou encore Kodak ont successivement annoncé la fin de leur fabrication face à l'émergence du numérique. On le juge alors plus simple d'utilisation, plus économique parce qu'il n'y a plus de pellicule, et puis très pratique pour retoucher instantanément les clichés. Et c'est sans compter les objectifs qui ont progressivement équipé nos smartphones. En 2021, nous étions plus de 77%, dont 9 jeunes sur 10 chez les 15-29 ans à en être équipés. Sauf que depuis 2017, on observe un peu à peu un retour grâce de l'argentique, et une enquête réalisée en 2021 à la demande du Salon de la Photo et de l'Alliance Française des Industrie du numérique ont indiqué que 68% des personnes interrogées se disent intéressées par cette pratique. 77% d'entre eux ont entre 15 et 29 ans. L'autre preuve du retour en grâce de l'argentique, s'il en est, la marque Leica a remis en vente la semaine dernière un de ses appareils phares, le M6. C'est un appareil mythique, notamment pour les reporters, depuis le lancement de ce modèle en 1984 et l'apparition de la marque allemande en 1923.
Merci Capucine Patouillet. Bonsoir à nos invités. Bonsoir Florence Bourgeois qui nous rejoint par téléphone.
Bonsoir.
Directrice
bonsoir à tous.
De Paris Photo. On revient vers vous car vous êtes en direct du Grand Palais éphémère où se termine justement Paris Photo aujourd'hui. Bonsoir à Michel Poivert.
Bonsoir.
Vous êtes historien de la photographie, professeur des universités Paris 1, Panthéon-Sorbonne, fondateur du Collège international de photographie. Et puis, vous êtes l'auteur de 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours. Bonsoir à Jimmy Gavroy. Vous êtes
bonsoir.
Régisseur Lumière et membre du collectif Les Trois Bains, qui est un laboratoire dédié à l'argentique. Peut-être d'abord un petit détour par le palais éphémère. Florence Bourgeois, comment s'est passée cette édition de Paris Photo ? Est-ce qu'il y a un engouement particulier cette année ? Et sur le public, surtout, comme on a parlé beaucoup des jeunes, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes chez vous ?
Écoutez, oui, ça a été une très belle édition. C'était la 25e édition de la foire. Et on a eu énormément de visiteurs. Une belle croissance encore par rapport à l'année dernière, avec un public qui est extrêmement varié sur la foire. C'est-à-dire qui est constitué à la fois de professionnels de l'écosystème, que ce soit les plus grands musées du monde qui viennent, en tout cas leurs trustees, les directeurs des départements photos, des musées internationaux qui viennent, ainsi que les collectionneurs et les amateurs, mais aussi des gens comme vous et moi qui ont un intérêt pour le médium. Et je voulais juste corriger un tout petit peu ce que vous avez dit en introduction, puisqu'on peut trouver
j'ai pas vu tous les prix.
Oui, on peut trouver des œuvres sur la foire à partir de 800 euros, je dirais. Alors bien sûr, certaines montent jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et mais voilà, donc une très belle énergie et le retour des Américains notamment, des internationaux, mais des Américains en particulier cette année.
Justement, Michel Poivert, est-ce que vous êtes allé à Paris Photo ?
J'y suis allé plusieurs fois et plusieurs après-midi et j'ai pu constater effectivement le succès de cette édition. Mais j'ai croisé beaucoup de jeunes. Moi, en tant qu'enseignant à l'université, j'apprécie particulièrement leur regard, leur présence. Et le fait que j'enseigne cette histoire de la photographie, c'est toujours étonnant de voir que beaucoup d'étudiants découvrent en fait les photographies au musée ou dans les foires ou dans les galeries et que c'est là qu'ils se forment l'œil. Parce que c'est une foire d'art, donc on a des tirages d'exception qu'on peut voir que très rarement. Et ces tirages d'exception sont en grande partie des tirages analogiques, argentiques mais pas que, analogiques. C'est-à-dire qu'ils font appel à des techniques, des technologies qui nécessitent des savoir-faire très particuliers. Et ce que l'on peut voir à Paris Photo ou sur les murs des musées, ce sont des tirages qui sont faits soit par des professionnels, soit par des artistes, photographes, qui ont les compétences pour réaliser leurs propres épreuves dans des laboratoires.
Alors je le disais un peu en introduction, on est tous des photographes en herbe puisqu'on utilise ces appareils qu'aujourd'hui on appelle communément les smartphones. Cela dit, j'ai vu des collaborations, je ne sais plus quelle marque collabore avec Leica, donc on a quand même des objectifs Zeiss, je crois, qui sont extrêmement perfectionnés. Et aujourd'hui, le smartphone tel qu'on l'a aujourd'hui les différents stades. Moi, par exemple, j'ai un appareil américain avec une pomme derrière qui porte le numéro 7. Je crois qu'on en est à 14 aujourd'hui. Donc, le mien est quand même très, très ancien par rapport aux nouveaux. Mais en fait, les nouveaux, ils sont updatés. Pour parler un bon franglais, mais en fonction justement de cet appareil photo. Il ne marche pas mieux au niveau téléphonique. Quoi. C'est le mail reste le même. Donc est-ce que ma question, c'est est-ce que ce n'est pas du grand n'importe quoi aujourd'hui, la photo ?
Ben moi, je crois qu'il faut établir une distinction qui peut paraître étrange, mais qui pour moi est très simple. C'est qu'avec les smartphones, on fait des images, mais on ne fait pas des photos.
Ah ben, c'est joliment dit. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Jimmy Gavrois ?
Je ne peux pas dire mieux.
C'est comme au chiffre aux lettres.
Je ne peux pas dire mieux.
Florence Bourgeois, c'est quoi ? C'est le fast-food d'un côté et le restaurant 3 étoiles de l'autre ?
Oh, on ne va pas caricaturer, mais c'est sûr que sur la foire, on propose bien sûr des œuvres d'artistes qui ont un projet au long cours. Donc, ce n'est pas l'image instantanée que nous faisons tous les jours.
Cela dit, quand je prends mon exemple du smartphone, je crois que cette même firme à la pomme qui fait des smartphones assez perfectionnés démontre qu'avec cet appareil-là, on peut faire des photos absolument sublimes. Michel Poivre.
Oui, c'était le cas de David Hockney d'ailleurs.
Oui, et ben voilà.
Qui à un moment présentait ses œuvres de cette façon, mais il s'inscrit quand même, enfin Michel va en parler bien mieux que moi, mais il s'inscrit dans un travail mûri.
Michel Pauvert.
Oui, non, mais les artistes, de toute façon, sont capables d'hybrider à peu près tout ce qui leur tombe sous la main à partir du moment où ça sert leur propos. Donc, il n'y a pas dans la passion ou la nouvelle passion pour l'analogique aujourd'hui quelque chose qui serait anti-numérique. Je crois que c'est une culture, finalement, qui est en train de renaître parce que les choix industriels dont vous parliez, qui étaient les choix du numérique, ont forgé un horizon industriel pour les images. Mais l'analogique, l'argentique, puisqu'on parle de l'argentique, s'est forgé un horizon culturel. Et c'est très différent. C'est pour ça qu'à la foire Paris Photo, on voit de la création. Et si tous ces tirages sont magnifiques, ont été travaillés par des gens qui ont les savoir-faire, c'est parce que ce qu'ils ont envie de prouver, c'est qu'on peut s'exprimer plus complètement avec ce genre de pratique.
Vous voulez dire qu'il n'y aura pas de patrimoine avec les images, pour reprendre votre mot ?
Ah ben vous prononcez un mot essentiel pour moi, parce que pour moi, l'argentique, c'est un patrimoine vivant. La question de la perte de la mémoire avec le numérique, ça va être la catastrophe annoncée des prochaines années pour toute l'histoire de la photographie des familles.
Mais pourquoi ?
Mais parce que vous parliez du cloud tout à l'heure. Qui aujourd'hui peut dire qu'il a des stockages fiables de sa photographie de famille ? Personne.
Donc, pour ceux qui vous entendent ce soir, à tout le moins, ce qu'on pourrait faire, c'est de vite tirer les photos qu'on aime.
Oui, absolument. Il faut le faire. Il faut sélectionner, ce qu'on appelle un editing. Il faut prendre sur les 100 photographies d'anniversaire, les deux qui vous touchent le plus, et puis mettre un petit peu de sous, mais ce n'est pas si cher que ça, et faire quelques petits tirages qu'on pourra transmettre aux générations suivantes.
Jimmy Gavrois, vous êtes bien silencieux. Est-ce que l'argentique auquel vous... Vous tenez tant, ça serait par exemple la comparaison entre un piano numérique et un piano acoustique ?
Oui, on peut. Moi, j'aime comparer aussi avec les autres formes d'art comme la musique. On en parlait avec Michel tout à l'heure. avec le retour du vinyle, par exemple. Effectivement, on ne met pas en opposition la photo numérique ou l'image numérique avec l'argentique aujourd'hui, si bien que maintenant, il y a des systèmes de scan qui se font à l'appareil photo numérique, donc c'est un peu paradoxal, des négatifs. Donc, je pense qu'il y a, il y a quelque chose qui se fait en parallèle et ce n'est pas en opposition. Effectivement, nous, en étant une association qui avons regroupé plein de passionnés, on a eu tous cette idée en commun de dire on veut reprendre le temps, on veut savoir comment, quel processus il s'agit quand on fait une photo et donc par extension une image finalement. Et on s'est rendu compte qu'on prenait plus le temps, on posait un peu plus le cadre, on a des photos limitées et surtout on peut les archiver. La question de la photo numérique, c'est comment va vieillir une photo numérique, ce que disait Michel. Est-ce qu'il va falloir les stocker à chaque fois, racheter des espaces de stockage? Et on s'est rendu compte que les jeunes générations avaient pris conscience de ça. On le voit dans les initiations qu'on donne, des jeunes entre 20 et 30 ans qui ne connaissent pas grand-chose, mais qui veulent vraiment découvrir, se rendre compte que vraiment il y a un vrai rapport au temps aujourd'hui avec...
Et puis, c'est pas du tout le même pareil. Alors, on a cité tout à l'heure la résurrection, ou en tout cas le retour du M6, qui est l'appareil phare de chez Leica. Je crois savoir que cette même marque emblématique avait sorti des appareils qui étaient numériques. Michel Pouvard, est-ce qu'on a le même œil avec un numérique et un argentique? Est-ce que, pour reprendre cet appareil-là, en l'occurrence, que moi, j'ai jamais tenu dans mes mains, est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça fonctionne de la même façon? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est...
Je crois qu'on a le même œil, mais c'est après l'œil que ça se passe. C'est-à-dire que si vous avez un appareil analogique, vous allez avoir votre regard qui va capter le réel, et puis vous allez devoir vivre un temps de latence, c'est-à-dire finalement, vous n'allez pas voir votre image tout de suite, vous allez au labo, vous allez la tirer, etc. Mmh. Mais quand vous êtes équipé en numérique...
Il faut revoir Blow Up, d'ailleurs, avec David Hemmings, le film d'Antonioni, en 1966, pour voir ce que c'est que...
Qu'est-ce qu'un labo,
attendre, cette attente, parce qu'en l'occurrence, évidemment, on ne va pas tout raconter, mais il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans ce parc, on ne sait pas trop quoi, mais cette attente,
et
le trajet jusqu'au labo, en disant qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que je vais enfin, avec l'agrandissement, pouvoir voir.
Et alors, avec la prise de vue numérique, eh bien, vous allez être le juge immédiat. Vous allez éditer immédiatement. Alors, ça peut avoir pour les professionnels un avantage certain, parce qu'on va aller plus vite, on va éditer. Mais pour l'amateur ou le créateur, finalement, est-ce que c'est bien d'éditer tout de suite ou est-ce que c'est bien de laisser, d'une certaine manière, dormir une image un certain temps pour aller la choisir ensuite sur le papier? C'est une toute autre démarche, en réalité. Elles ne sont pas antinomiques, c'est toute autre démarche.
Florence Bourgeois, par rapport à ce qui vient d'être dit?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a d'autres traitements également aujourd'hui par les artistes. C'est tout la récupération des images anonymes, ce qu'on appelle aussi les photographies vernaculaires, qui me semble encore une autre direction. Mais sur le reste, bien sûr, Michel l'explique extrêmement bien.
À quel moment, Florence Bourgeois, on devient un artiste? Et à quel moment, c'est plutôt ça ma question, à quel moment une photo devient une photo d'art?
Le point de passage, je dirais pas obligé, mais en tout cas conseillé, et en tout cas pour être représenté sur le marché, il y a une nécessité à un moment d'être représenté par une galerie. Et c'est une collaboration entre un artiste et une galerie qui va produire le travail de l'artiste et le représenter à la fois dans sa galerie, mais également sur les foires. C'est ce qui va lui permettre de lui donner une très forte visibilité. Ça, en fait, c'est la partie marchande. Après, on peut, avant d'arriver à cette partie marchande, on peut avoir un statut d'artiste, fort heureusement. Mais pour arriver sur le marché,
c'est comme une maison de disques, c'est-à-dire que je peux enregistrer ma chanson sur YouTube et puis je peux aussi aller voir une maison de disques pour être accompagné à la fois par un agent et une maison de disques et pouvoir ensuite vendre des chansons.
Oui, absolument. Ça va démultiplier la visibilité. de cet artiste. En
Mais
effet.
Alors justement, il y a un casting, il y a des, comment dirais-je, je vous parle à vous trois en même temps, il y a des concours, il y a des, comment est-ce que ça se passe?
J'allais dire, il y a des écoles aussi, il y a des écoles. La question du statut artistique ou non d'une pratique photographique, elle est effectivement tout à nuancer, parce que c'est avant tout le projet d'une vie. Hein, c'est-à-dire que si vous avez à un moment donné une pratique artistique qui vous emmène vers un besoin de vous exprimer et d'aller jusqu'à produire des épreuves d'une grande qualité, la critique jugera si c'est une bonne qualité artistique ou pas, mais en tout cas dans votre fort intérieur, vous vous positionnez dans une pratique artistique qui va être distincte d'une pratique d'amateur qui est celle que nous faisons tous les jours.
Jimmy, Gavra, d'accord avec ça?
Oui, 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 et je pense que Michel en sait un peu plus que moi parce qu'il est historien de l'art et effectivement...
Mais vous, justement, on parle d'un projet de vie, vous en l'occurrence, comment est-ce que ça a commencé chez vous? Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je vais devenir photographe professionnel et ensuite fonder une association, en tout cas prendre part au renouveau de l'Argentique qui est une aventure, voilà, j'allais dire une aventure humaine, je me suis arrêté à humaine parce que je ne sais pas si on peut, je n'aime pas du tout galvauder les mots, mais voilà, en tout cas c'est une aventure.
Oui, oui, c'est une aventure. Alors, moi, je ne suis pas photographe professionnel. En tout cas, je ne me sens pas légitime de ça.
Ben voilà, au moins, vous avez l'humilité de ne pas le dire.
Bien sûr, au vu de beaucoup de collègues qui en vivent, et c'est très difficile.
Mais comment on rentre dans ce milieu? C'est quoi? C'est une image ou une photo ou quelque chose dans un journal qui vous a marqué en disant, tiens...
C'est une... Alors, moi, de mon côté, c'était un peu une passion qui vient de mon père et qui avait cet appareil, comme je disais à Michel, je ne pouvais pas le toucher. C'était quelque chose, ça casse, c'est fragile.
C'est la pomme sur l'arbre.
Exactement, et jusqu'au jour, il me l'a offert à mes 22 ans. Et là, je me suis dit, je vais trouver des ateliers pour aller apprendre tout le procédé argentique. Et depuis, je n'ai pas arrêté. J'ai rencontré plein de gens très intéressants qui avaient la même passion. Et puis, on s'est organisé en collectif. Parce qu'on s'est dit également qu'on était des générations tampons, c'est-à-dire qu'on avait ce besoin de transmettre ce avec quoi on avait grandi, en tout cas les images avec lesquelles on avait grandi et les photos, puisque au final on a été entre les deux, on n'avait pas internet et puis après on l'a eu, on a eu les photos argentiques et puis d'un coup il y a eu la photo numérique et je crois que c'était aussi une volonté de ralentir quoi.
De ralentir, ouais. C'est-à-dire
c'est... La photographie, en tout cas, c'est aussi très personnel, mais je crois que dans le collectif, on est tous assez d'accord. C'est devant le flux d'images et pas de photographies. On a voulu se dire comment on peut ralentir ce flux et ça passe par nos anciens, quoi, qui avaient déjà.
Oui, moi je suis assez d'accord avec ça, parce qu'en voyant arriver des générations de milléniums, hein, ceux qui sont nés en 2000, et qui n'ont même pas de culture familiale de la photographie classique, en fait c'est eux qui sont les plus emballés par l'expérience analogique et argentique. En fait pour eux c'est pas du tout nostalgique, parce qu'ils n'ont pas d'avant, pour eux c'est de l'inconnu, c'est une expérience nouvelle, et pour moi fondamentalement il y a la question du rapport au temps, et puis du rapport à la main, c'est-à-dire qu'on se reconnecte, on va au labo, on met les doigts dans des produits, on voit l'image arriver, je prends souvent l'image, c'est cette idée de, ils reprennent l'image en main, au sens propre du terme, en main, vraiment avec leurs mains. Et dans le travail que je fais à l'université ou dans la vie associative aussi, je défends bec et ongle les métiers du tirage. Parce qu'on a encore, et de plus en plus, des tireurs de très haut niveau en France. Je crois vraiment qu'on est très très fort dans ce domaine-là. Et pour boucler avec Florence et avec le salon Paris Photo, il ne faut pas oublier que ce sont les artistes qui ont fait en sorte que les techniques ne meurent pas. Parce que comme les tireurs pouvaient leur faire des prestations de très haut niveau, l'industrie était partie dans le numérique, mais les collectionneurs voulaient des tirages de très grande qualité. Donc les tireurs qui sont restés, hein, je pense à Diamantino ou à Guillaume Genest aujourd'hui, ont vécu toutes ces années difficiles grâce aux artistes. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui le monde plus amateur regarde les photographies des grands salons comme des modèles.
Ouais, c'est tout un écosystème, hein, Florence Bourgeois, qui du coup est représentée à Paris Photo.
Oui, et d'ailleurs, c'était intéressant. On a reconstitué un petit laboratoire cette année. Alors, non pas un laboratoire de tirage, mais Thomas Mailander est venu activer tout un laboratoire sur la foire pendant la semaine. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a nombreux artistes qui retravaillent les techniques anciennes, et notamment celles du cyanotype, et donc qui ont permis aux visiteurs de voir l'élaboration de plusieurs... Alors là, ce ne sont pas des tirages à proprement parler, mais l'élaboration d'une œuvre sur 5 jours. Et c'est vrai que c'est tout un écosystème qu'on retrouve sur la foire et qui se serre les coudes et qui est très solidaire. Et c'est extrêmement important, je pense, pour l'avenir de la photographie.
Mais c'est marrant parce que vous dites solidaire, vous dites on se serre les coudes, etc. On a l'impression que vous êtes le village d'irréductibles gaulois qui essaye de pallier l'envahisseur romain qui est quoi ? C'est la photo numérique ou d'ailleurs on ne parle plus. Je reprends l'image que j'aime beaucoup de Michel Poivert, qui est l'image et pas la photo numérique.
Bah, on a aussi l'introduction de la photographie numérique quand même, y compris sur la foire, pour l'instant par petites touches, mais de la photographie digitale.
C'est quoi la différence entre numérique et digital, du coup ?
Michel ?
C'est relativement équivalent, parce que c'est des mots en fait qui des fois décrivent plutôt le processus de la prise de vue, puis après les processus de tirage. Mais ce qui est très rigolo, c'est que on a chez des artistes aujourd'hui, par exemple, une prise de vue numérique, et puis une fois qu'on a choisi son cliché, on va le faire shooter, comme on dit, en négatif, en celluloïde, pour pouvoir avoir un travail de tirage classique derrière. Donc, vous voyez, c'est assez marrant cette hybridation, c'est à quoi on veut aboutir. Peut-être qu'on est équipé en numérique parce que, par exemple, on va travailler sur des terrains difficiles et que c'est plus facile d'y aller en numérique. Mais par contre, in fine, on veut une épreuve, au sens une épreuve photographique qui sera un objet. Et donc, c'est marrant de voir que les processus entre le numérique, le digital et l'analogique peuvent se cumuler dans un même processus. Donc, il n'y a pas d'exclusion des uns par rapport aux autres. Mais encore une fois, l'analogique permet de reconstituer les phases mentales et des expériences qui sont très singulières, mais qui correspondent à notre époque, c'est-à-dire se reconnecter à la nature, se reconnecter aux produits, se reconnecter à la matière. Et ça, c'est vraiment un besoin anthropologique très puissant.
Florence Bourgeois, est-ce qu'il y a des modes dans la photographie ? Est-ce qu'à une certaine période, on va plutôt, photographier des sujets ou des paysages ? On se souvient notamment, alors vous allez tous m'aider, ce couple de photographes allemands qui photographiaient des édifices, des anciennes usines, des hangars, etc. Est-ce qu'il y a des modes dans la photo ?
Il y a plusieurs tendances, en tout cas, qu'on retrouve souvent sur la foire. Il y a, en effet, on a beaucoup parlé du traitement du médium précédemment, mais on retrouve maintenant aussi certains artistes de façon régulière sur la foire qui traitent de l'actualité, et notamment, par exemple, Boris Mikhaïlov, qui avait un solo show chez Suzanne Taraziev avec deux campagnes qu'il a faites en Ukraine. D'autres photographes qui traitent de l'écologie, des problématiques environnementales. Je pense à Bertinsky ou à Philippe Chancel parfois sur certaines de ses prises de vue, ou bien de traitement de l'immigration, enfin des problématiques migratoires.
C'est
notamment
ça, en fait,
chez Mathieu
Perlot. C'est la photo politique, ça.
Oui, donc voilà, il y a aussi de la photographie de mode, enfin des tendances, il y en a énormément en fait.
Merci beaucoup, en tout cas. Peut-être une petite conclusion, Michel Poivert ?
Oui, j'allais dire que moi, j'ai vu une tendance, mais qui monte beaucoup à Paris Photo, c'est, on pourrait dire, une photographie expérimentale ou contre-culturelle, où on essaye, où on refabrique carrément des procédés. Que ce soit à la Galerie Binôme ou chez Thierry Biguignon, on voit des gens qui font de l'expérimental. Et paradoxalement, c'est des photographies qui ne produisent pas nécessairement des images.
Merci beaucoup Michel Poivert, Florence Bourgeois et Jimmy Gavrois pour nous avoir éclairé sur cette photographie dans tous ses états. C'est fini pour Europe Soir. Je vous retrouve le week-end prochain.